Merci d'écouter RFI, les 6h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Andréane et bonjour à tous.
Dans votre journal, le plus grand déblocage de réserves de pétrole de l'histoire.
Il a été annoncé hier par les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie. 400 millions de barils de pétrole vont être mis sur le marché pour compenser la paralysie du détroit d'Ormuz, annonce faite hier, et qui n'empêche pas, vous l'entendrez, le baril de Brent de flamber à nouveau ce matin. Ce qui ne fait pas évidemment les affaires de Donald Trump. La guerre au Moyen-Orient est impopulaire aux États-Unis, mais peu importe les faits, pour Donald Trump, la guerre est bientôt terminée, il le martèle, alors que l'armée américaine poursuit ses bombardements en Iran. On fera le point aussi dans ce journal sur le front libanais de ce conflit. Et puis dans le reste de l'actualité, à peine arrivé, déjà convoqué en Afrique du Sud, le nouvel ambassadeur américain Léo Brenbozel s'attire les foudres de Pretoria. On parle aussi de la commission d'enquête Betaram de retour de Côte d'Ivoire. Et puis football, évidemment, belle soirée pour le PSG hier, qui a pris une option pour la qualification pour les huitièmes de la Ligue des Champions.
Malgré un déblocage massif des réserves stratégiques, le baril de pétrole repart à la hausse.
Et le baril de Brent est repassé tout à l'heure au-dessus de la barre des 100 dollars, malgré donc le déblocage de stocks massif annoncé hier après-midi par l'Agence internationale de l'énergie. 400 millions de barils de pétrole qui vont irriguer le marché pendant les 3 prochains mois. Décision prise à l'unanimité par les membres de l'organisation pour éviter un choc pétrolier dans le sillage de la paralysie du détroit d'Ormuz. Les précisions de Pierre-Olivier.
C'est la première fois de l'histoire de l'Agence internationale de l'énergie qu'une telle quantité de pétrole va être débloquée. 400 millions de barils issus des réserves stratégiques des 32 pays membres de l'AIE. Cela représente un tiers des stocks stratégiques mondiaux. Un déblocage qui devrait donner une bouffée d'oxygène d'un petit mois à ces pays. L'objectif est de compenser les exportations de brut qui passaient jusqu'à présent par le détroit d'Ormuz, soit environ 15 millions de barils quotidiens. L'autre volet de la stratégie des pays riches est aussi de préparer l'après. Réunis en visioconférence, les membres du G7 ont acté de futurs efforts militaires coordonnés pour escorter, le moment voulu, les pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Mais les conditions ne sont pas encore remplies, a précisé Emmanuel Macron, qui rappelle que les capacités militaires iraniennes ne sont pas réduites à zéro. Les pays du G7, y compris les États-Unis, se sont aussi fixés une ligne rouge. Les sanctions contre Moscou pour sa guerre en Ukraine persisteront. Autrement dit, hors de question d'avoir recours au pétrole russe pour faire baisser les prix.
Pierre-Olivier, l'Iran de son côté poursuit ses frappes sur les infrastructures énergétiques, notamment dans le Golfe. Dernière attaque contre des réservoirs de pétrole à Bahreïn. L'Émirat appelle ces dernières heures les habitants de plusieurs localités à rester chez eux. Voilà qui ne devrait pas arranger évidemment les cours du pétrole qui flambe, on l'a dit de nouveau ce matin, et cela ne fait pas les affaires de Donald Trump à quelques mois maintenant des élections de mi-mandat, après avoir promis que la guerre serait bientôt terminée. Le président américain est allé plus loin hier en affirmant qu'elle était déjà finie, même si les bombardements américains se poursuivent. Donald Trump contraint de temporiser face à une opération militaire impopulaire auprès de l'électorat américain, 53% d'opinions négatives et facteur d'instabilité pour les marchés financiers, Vincent Sourius.
Pour la énième fois, devant un public conquis, Donald Trump s'attarde sur le nom de code de sa guerre en Iran. Fureur épique, Epic Fury en anglais. Un nom comme ça, dit-il, ne fonctionne que si vous gagnez. Et ça, c'est déjà fait, assure le président américain.
Is that a great name?
C'est pas un nom génial, ça? Mais ça ne marche que si on gagne. Et on a gagné. Croyez-moi, on a gagné. On n'a jamais envie de le dire trop tôt, mais on a remporté notre pari. Dès la première heure, c'était fini.
Manière de rassurer les marchés financiers et son électorat qui ne veut pas d'un nouvel enlisement après l'Irak ou l'Afghanistan. Mais il y a un bémol, si le conflit est gagné, pourquoi continuer? Réponse toute faite du président américain.
On n'a pas envie de partir trop tôt, n'est-ce pas? Il faut terminer le travail, pas vrai?
D'ici là, le prix du pétrole s'envole de nouveau et les États-Unis vont mettre sur le marché 172 millions de barils issus de leurs réserves stratégiques pour tenter de rectifier le tir. Vincent Souriau, Washington RFI.
Les États-Unis et Israël qui poursuivent leur bombardement sur l'Iran. Autre front de cette guerre, Jeanne, au Liban.
Israël poursuit ses frappes au Liban sur des quartiers et des régions réputées être des bastions du Hezbollah. L'Iran, de son côté, dit avoir réalisé une opération de frappe conjointe et intégrée avec justement le Hezbollah, son allié libanais, sur Israël, à des frappes coordonnées qui visaient, selon les gardiens de la révolution, des bases militaires israéliennes à Haïfa, Tel Aviv et Beersheva.
Depuis 13 jours, les Israéliens vivent au rythme des sirènes antiaériennes.
Oui, mais un tiers des habitants du pays n'a pas accès à une infrastructure de protection, chiffre qui monte à plus de la moitié dans les quartiers où vivent les Palestiniens d'Israël, comme à Jérusalem, où ces disparités sont encore plus flagrantes. Reportage de Frédéric Misselin dans la partie annexée et occupée de la ville, là où vivent 400 000 Palestiniens.
Youssef a entendu les sirènes d'alerte et puis, très vite, tout près, une grosse explosion. Le toit de sa voiture, garée à quelques mètres, a été déchiqueté par un débris de missile.
Le fragment de missile mesurait 70 cm de long à peu près, sur 40 cm de large et 15 cm de profondeur.
Youssef habite dans le quartier de Sherjara, à Jérusalem-Est, dans la partie annexée et occupée par Israël. En ces temps de guerre, il reste très prudent.
Normalement, je n'ai pas peur, mais hier, après avoir vu les éclats d'obus sur la voiture et les dégâts, j'ai eu peur.
À Jérusalem-Est, les maisons sont anciennes, les abris recommandés par la mairie ne sont pas nombreux, peu d'écoles publiques, pas de parking en sous-sol. Rallie les Palestiniens, il tient un petit supermarché du côté de Beit Hanina.
Ici, il n'y a pas d'abri public. Dans notre quartier, l'abri le plus proche est à 10 minutes en voiture. On entend les sirènes d'alerte, mais nous n'avons nulle part où aller. Les gens rentrent chez eux.
D'après l'ONG Bimcom, Jérusalem-Ouest compte environ 200 abris publics, plus des centaines de bâtiments aménagés. Les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est ne disposent que d'une soixantaine d'abris, situés essentiellement dans des écoles et pas toujours accessibles. Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI.
RFI 7h07 à Goma. Le gouvernement congolais dit avoir pris connaissance des explosions dans la ville.
Mais oui, Kinshasa exprime sa profonde tristesse à la suite des pertes en vie humaine et salue l'engagement remarquable des acteurs humanitaires qui poursuivent leur mission d'assistance auprès des populations civiles affectées par le conflit. Hier, Emmanuel Macron a confirmé la mort d'une humanitaire française dans ces explosions survenues dans la nuit de mardi à mercredi. Selon l'AFCM 23, 3 personnes sont mortes, dont cette humanitaire. Selon le groupe armé soutenu par le Rwanda voisin qui contrôle la ville, ce sont des drones qui auraient visé un quartier résidentiel de Goma. À peine arrivé, déjà rappelé à l'ordre en Afrique du Sud, le nouvel ambassadeur américain Léo Brenbozel, figure controversée notamment pour son opposition historique au mouvement de la lutte anti-apartheid et à la figure de Nelson Mandela, a été convoqué par le département des affaires étrangères après des propos jugés antidiplomatiques. Correspondance Valentin Hugues.
C'était sa première prise de parole publique mardi dernier depuis une petite ville au sud du pays. Léo Brenbozel critique la politique intérieure sud-africaine. Le nouvel ambassadeur s'en prend au principe de discrimination positive qui assure une participation économique plus large aux populations historiquement désavantagées. Ronald Lamola, ministre des Affaires étrangères.
Ce programme d'autonomisation économique n'est pas du racisme inversé, comme l'a malheureusement insinué l'ambassadeur. Il s'agit d'un instrument fondamental conçu pour remédier aux déséquilibres structurels liés à l'histoire unique de l'Afrique du Sud. Un impératif constitutionnel que le gouvernement sud-africain ne peut pas et ne veut pas abandonner.
À peine arrivé, l'ambassadeur conservateur est donc déjà rappelé à l'ordre. Et sur les réseaux sociaux, une phrase issue de ce premier discours retient particulièrement l'attention.
Concernant le chant Kill the Boer, nous pensons que c'est un discours de haine. Désolé, je me fiche de ce que disent vos tribunaux.
Une référence à un chant anti-apartheid, source de nombreuses polémiques en raison de ses paroles violentes, mais que la justice sud-africaine ne qualifie pas de discours de haine. Selon Zendangor, directeur général du département des affaires étrangères, l'ambassadeur est revenu sur ses propos.
Il s'est excusé et a exprimé ses regrets, y compris pour le commentaire qui semblait porter atteinte au pouvoir judiciaire.
Le gouvernement américain respecte l'indépendance du système judiciaire sud-africain, a depuis précisé Léo Brenbozel. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
On reparle aujourd'hui, Jeanne, de l'affaire Betaram.
Du nom de cet établissement catholique français au cœur d'un vaste scandale de violences physiques et sexuelles, les membres de la commission indépendante chargée d'enquêter sur ces violences à l'étranger sont de retour de Côte d'Ivoire. Le pays est considéré comme l'épicentre de l'affaire à l'international. Ils ont recueilli sur place 6 nouveaux témoignages, Baptiste Coulon.
Un agresseur présumé est évoqué dans ses témoignages, Benoît Ségur. Ce prêtre français décédé en 2010 a fréquenté la paroisse d'Adio Podoumé près d'Abidjan en 1990, là où est implantée la congrégation de Bétaram en Côte d'Ivoire. Cela porte à 10 le nombre de témoignages de victimes ivoiriennes recueillies par cette commission. Un chiffre sans doute sous-estimé, explique Magali Bess, qui a mené plusieurs entretiens.
Chaque personne victime, elle va parler d'autres personnes. Dans ce contexte-là, on a bien perçu aussi que la dimension du fait que ce soit un homme qui agresse sexuellement des garçons renforce encore le tabou pour certaines personnes, que ce soit des témoins ou des victimes. Ça peut amener certains à ne pas souhaiter s'exprimer, en fait.
Un silence et des agressions symptomatiques d'un rapport de domination après des décennies de colonisation française, explique Magali Bess.
La vulnérabilité est un facteur de victimisation. Et on sait que, évidemment, y compris dans le contexte post-colonial, il peut, par exemple, y avoir des écarts économiques, des choses qui vont faciliter la commission des violences.
À défaut de déposer une plainte qui n'aboutira pas du fait de la prescription des faits, ces victimes pourront solliciter une indemnisation auprès d'une structure spécialement dédiée. Quant à la commission d'enquête, elle n'exclut pas de retourner prochainement en Côte d'Ivoire pour recueillir d'autres témoignages.
Baptiste Coulon.
Enfin, musique pour refermer ce journal.
Et Jenny Bess, la plus anglaise des rockeuses françaises, s'apprête à enflammer, ce sera ce soir, la scène du festival Les Arocs à Paris, tête d'affiche des 40 ans de l'événement. José Marigno.
Jamais une Française n'a autant fait la couverture des médias rock internationaux depuis 2011 comme Jenny Bess. Rockeuse magnétique et musicienne formée au jazz, Camille Berthomier, de son vrai nom, a grandi à Poitiers. Difficile de le deviner, tant son style post-punk britannique allie rage et attitude. De sa voix puissante, la Française d'une quarantaine d'années porte des textes qui explorent le chaos de notre époque et notre société aliénante. Le tout entre brutalité sonore et hurlement salvateur, comme ici. Avant de devenir actrice pour Jacques Audiard ou Justine Triet, elle s'était imposée comme meneuse explosive du groupe post-punk britannique féminin Savages. Sur son deuxième album, brutal mais aussi mélodique, Jenny Bess surprend et électrise en permanence.
Jenny Bess et José Marigno qu'on retrouve tout à l'heure dans le choix musical. Et puis Andréane, un tout petit mot de sport pour vous dire que c'était une belle soirée hier pour le PSG qui a pris une option pour la qualification dans son huitième de finale aller. Victoire 5-2 face à Chelsea. On va revenir sur cette soirée de Ligue des Champions dans le journal des sports.
Et une belle soirée aussi pour le Real Madrid, si j'ai bien compris. On en reparle avec Antoine Grenier dans une demi-heure. Merci Jeanne Bartoli pour le journal. Paris, il est 6h13 à Beyrouth, jeudi 12 mars 2026, au 13e jour de la guerre entre l'Iran et des Hezbollah face à Israël et les États-Unis. On continue ce matin de vous faire entendre les voix de celles et ceux qui sont directement touchés par cette guerre dans leur chair, dans leur quotidien, comme cette Iranienne qui raconte les bombardements aux quatre coins de Téhéran cette nuit. Encore, vous l'entendrez, à 8h, cet homme, lui, vient en aide aux déplacés de la guerre, ici dans une école de Beyrouth.
C'est le mois de Ramadan, les gens jeûnent du matin au soir, il leur faudrait des repas riches pour tenir. Ça, c'est vraiment un problème.
Reportage à écouter à 9h, Beyrouth, où on appellera à 7h20 votre invité. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Monseigneur César Essaillon est vicaire apostolique de la capitale libanaise.
Oui, il est né au Liban, il a été nommé évêque il y a 10 ans, il vit très douloureusement cette nouvelle guerre. Le pape Léon XIV a redit hier son soutien au peuple libanais dans une grande épreuve. Le souverain pontife a en particulier rendu hommage au père Pierre El-Rai, un prêtre maronite du sud du Liban, tué lundi par des tirs israéliens. Une victime parmi tant d'autres, puisque depuis le 2 mars, Les frappes israéliennes ont tué plus de 600 personnes. Pour fuir la guerre, plus de 800 000 personnes ont été déplacées. C'est quasiment un habitant du Liban sur 10. Exode massif, immense défi humanitaire et crainte d'une crise sanitaire, bien sûr. En direct de Beyrouth, Monseigneur Essayant nous dira comment il appréhende ce nouveau conflit, comment son église vient en aide aux déplacés, ses craintes et ses espoirs. Rendez-vous à 6h20 en universel.
Et nous serons aussi en ligne ce matin avec nos correspondants, bien sûr, et envoyés spéciaux à Beyrouth, mais également à Téhéran. Siavosh Ghazi sera avec nous dans moins d'une heure. Autre invité ce matin sur RFI, Stanislas Ngodi, enseignant-chercheur.
J'aime rêver vers la grâce matinée, mais mon voisin ne cesse de me reprocher cette paresse. La vie appartient à celui qui se lève tôt, répète le voisin souvent. Parole d'ignorance, c'est ce que je pense. Rien ne vaut le sommeil du matin. Un sommier tranquille, loin des usines et du gratin. À tête de l'oreiller, champion du monde de la nuit. Rêve d'une journée sans descendre de lit. Voisin enthousiasmé vient sonner à ma porte. Le genre de mec insiste avec une énergie trop forte. Quoi? Que se passe-t-il? Est-ce la fin du monde? Mais non, c'est le voisin avec un billet dans les mains. Il me dit écoute-moi bien. Ce matin en allant travailler très tôt, j'ai trouvé sur la route un billet de 50 €. Tu vois bien qu'ils ont raison à la télé. La fortune appartient à celui qui se lève tôt. Mon cher voisin, si tu prenais la peine d'éteindre ta télé, travailler moins pour penser plus, tu te rendrais compte. Et ça en vaut la peine qu'en jouant avec les mots. La vie appartient à celui qui se rêve trop.
Deviens pour elle son essence et son miel, puis fais-la monter au ciel afin de devenir son essentiel. J'ai longtemps vécu seul, était-ce un délit de sale gueule ou juste moi qui pensais que ma ganache n'était pas ce qu'elles veulent. Bref, ce sont les sessions débiles et sont sans concession futile, et sont les séditions défilées sans opposition civile. C'est moi pour elle, elle pour moi, pour toi mon cœur est aux abois, et même si tu m'employais pour toi, je serais du bénévolat. Ton souffle m'emmène dans les recoins les plus cachés de notre destinée. Pour toi je deviens bohème. À tes côtés, je n'ai pas peur de voir les secondes défiler. Ton souffle me mène sur les sentiers les plus charnus du désir et du péché. Deviens mon emblème. Je n'entends plus rien, donc prends ma main, suis mon chemin, partons loin. Tu sais que je t'aime poupée, alors ne joue pas avec moi. J'ai vécu de grandes épopées, des pertes ainsi que des prises de poids. Des filles de joie parfois pour combler le manque que j'avais de toi. T'aimer en secret sans pour autant croire un jour te rendre foi. Tu es si belle et moi si fou, mais tu es celle qui me fait bafouer. Et quand tu arrives juste là-bas, ça moi j'avoue. Être à moins que rien dévoue et un cartomancien raté. Un enquêteur ayant tellement de mal à déjouer tes projets. Dis-moi que t'es là avant la fin, car je sais que c'est toi mon destin. Et ne t'en fais pas, je t'aimerai toujours autant même des fins. Je t'ai cherché en vain, je t'ai trouvé enfin. Mon rêve s'exauce. Si je veux voir grandir cette petite chose dans ce couffin. C'est malsain de t'aimer autant. L'absinthe me laisse sur le divan. Je m'abstiens pendant le ramadan. T'es atteinte, je suis ton sultan. Mon étreinte sur ton corps brûlant. Mon empreinte, ton cœur palpitant. Tes craintes et ma peur du néant. Les contraintes sont les fatigants. Ton souffle m'emmène dans les recoins les plus cachés de notre destinée. Pour toi je deviens bohème. À tes côtés je n'ai pas peur de voir les secondes défiler. Ton souffle me mène sur les sentiers les plus charmants du désir et du péché. Deviens mon emblème, j'entends plus rien, entends ma main, suis mon chemin, partons loin. Ton souffle m'emmène, ton souffle m'emmène, ton souffle m'emmène.
Vous écoutez Principe Actif.
Du sud de l'Eure jusqu'aux portes de Rouen.
Sur le DAB+.
Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature. Le moral est bon, je poursuis le vol. Tout va bien, l'engin fonctionne normalement.
Mamá.
¿Qué?
Señor presidente.
¿Puedo tener hijos?
Ahora no, porque tienes 7 años.
Señor presidente.
Pero los tendrás cuando seas mayor y te cases.
¿Quién tiene antes el niño, la madre o el padre?
El padre pone la semilla, como te he dicho, y la madre pone la tierra en que esa semilla hará nacer la flor.
¿Y quién es la flor?
Tú.
¿Por qué no crecen los niños dentro de los papás? Yo ya estoy deseando tener niños. ¿Y tú, Quique?
Ah, yo aún no.
¿Y tú, Quique?
Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado.
¿Y tú, Quique?
Solo quererse mucho.
¿Y tú, Quique?
¿Y tú, Quique? Solo quererse mucho.
¿Y tú, Quique?
Yo siempre estaré a tu lado.
Oye, mamá, ¿puedo tener niños ya?
Retira 757. El médico del pueblo. El médico del pueblo. Artritis, asma, diabetes e impotencia.
Hoy tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los niños. Es un momento muy importante, definitivo. Revelaros el secreto más grande de la humanidad. La verdad sobre el nacimiento de los niños.
Mitad y mitad es suficiente.
Radio Mano Papachango.
Nos hemos decidido a revelaros este misterio porque no consideramos justo el que vosotros, grandes y verdaderos amigos de lo auténtico, os sintáis engañados, no ya por vuestros padres, naturalmente, sino por otras opiniones, ignorante.
¿Y qué tienen ignorante que hacer el padre y la madre para tener niños?
Solo quererse mucho. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado.
¿Y tú, Quique?
Yo siempre
¿cómo
estaré a tu
vivimos
lado
dentro de ti?
Pues como la luz vive en su lámpara, o el agua dentro del vaso. Es como si quisieras ver el interior de mi corazón.
Mano,
yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado.
¿Y tú, Quique?
Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado.
¿Y tú, Quique?
Yo siempre estaré a tu lado.
Debemos mantenernos al
radio.
Es la señal, los tiranos vienen hacia acá y estamos listos para ello. Tendremos que hacer algo.
Secondes avant l'impact.
Essayez encore.
Altitude